Il n'y a que laissé comme ça devrait marcher.
Bonjour.
La vie intérieure, route du bonheur avec Saint Benoît. Chapitre 1er, l'horreur. J'ai parlé du bonheur dans le titre de ces entretiens, mais en fait, la vie intérieure, la vie contemplative, la vie religieuse se présente concrètement pour vous la plupart du temps. Lorsqu'on apprend la vocation de quelqu'un dans la famille, on prend un ton désolé, on baisse lui, et on essaye même parfois d'obtenir un changement de décision. Je connais l'histoire comme ça d'un papa qui est allé voter un prêtre en lui disant ce qui m'arrive, il y a ma fille qui veut rentrer au couvent. Il a répondu: mon pauvre monsieur, moi, j'ai 5 sœurs qui sont au couvent. Chapitre 2, vous voyez, ça va très vite. Chapitre 2, la règle de Saint Benoît nous appelle au bonheur. Dès le début de la règle de Saint Benoît, la règle de Saint Benoît est ici présentée comme sorte l'ancêtre et le modèle de toutes les règles religieuses. Au début de la règle de Saint Benoît, nous entendons ce grand cri. Quel est l'homme qui désire la vie et veut des jours de bonheur? Yes bonos, de bien. Quel est l'homme qui veut la vie? Et celui qui va rentrer au monastère, celui qu'on va accepter au noviciat, c'est celui qui veut être heureux. Ce bonheur est présenté de manière un peu plus détaillée ensuite dans la règle de Saint Benoît comme le bonheur de la charité, le bonheur de la patience dans le sort. Le bon zèle, écrit Saint Benoît, sépare des vices et conduit à Dieu et à la vie éternelle. Ce zèle, que les moines l'exercent avec le plus fervent amour, c'est-à-dire qu'ils se préviennent mutuellement d'honneur, qu'ils supportent très patiemment leurs infirmités, soit corporelles, soit morales, qu'ils rivalisent d'obéissance mutuelle. Que nul ne poursuive ce qu'il juge lui être utile, mais plutôt ce qu'il est à autrui. Et avec un chaste amour, il se prodigue la charité de la fraternité. Craignent Dieu qu'ils aiment leur abbé d'une charité sincère et humble, qu'ils ne préfèrent absolument rien au Christ, qui nous conduisent ensemble à la vie éternelle. Ainsi soit-il. C'est un bonheur, vous voyez. Paul nous présente vraiment quelque chose de céleste. Il n'y a plus l'ombre d'un nuage entre les personnes qui vivent ensemble. Qui aimerait voir cela bien, c'est ce que veut réaliser Saint Benoît dans ses monastères. Mais vous voyez tout de suite que ce bonheur, il y a des conditions pour réaliser ce bonheur, qui est la patience, le support mutuel. Ils supportent très patiemment leurs infirmités, soit corporelles, soit morales. Qu'est-ce qui peut être casse-pied, celui-là? Qu'est-ce qu'elle peut être casse-pied, celle-là? C'est là le bonheur, c'est lorsqu'on arrive, sans se cacher les défauts des autres, à passer par-dessus cette évidence du défaut de l'autre. C'est ça le bonheur. Et ce bonheur, c'est quelque chose de sérieux. Saint Benoît insiste beaucoup sur l'enfer, la crainte de l'enfer. Dès le début de la règle, on pourrait se dire, quelqu'un qui veut comme ça nous rendre heureux, qui est si optimiste, pourquoi est-ce qu'il parle tant de l'enfer? L'enfer, mon père, c'est pas un vieux truc du Moyen-Âge, ça, qu'on a laissé tomber maintenant depuis l'été, au XXe siècle, que maintenant, miné, maintenant, les guerres, mon père, c'est miné. Ben, je crois pas. Donc, l'enfer, c'est en réalité quelque chose qui nous fait comprendre le sérieux de la vie. L'enfer, c'est lorsque quelqu'un se refuse à Dieu. C'est pas Dieu qui l'envoie en enfer, c'est lui qui s'envoie en quelque sorte en enfer. Parce qu'il s'est détourné de Dieu. Pour aller en enfer, il faut s'être détourné de Dieu. Ah oh bah tiens, j'ai pas fait attention, tiens, zut, tu me retrouves en enfer. L'enfer, c'est quelque chose où on... Et donc Saint Benoît évoque l'enfer dès le début de la règle, il évoque l'enfer, pour nous faire comprendre le sérieux de ce bonheur. L'enjeu est grave. Nous serons heureux si nous comprenons que devenir heureux, Ça va engager toute notre éternité. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, je vais faire ça parce que ben, on sera un peu mieux ensemble, ça sera pas mal, mais on pourrait éventuellement faire autre chose. Non, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas ça ou autre chose. Il y a Dieu ou il n'y a rien. Et pour vous, c'est pareil. Tout au long de votre existence, il y a Dieu ou il n'y a rien. Il ne faut pas dire qu'il y a autre chose de possible. Il n'y a que Dieu. Lisez l'Évangile, c'est ça qui est expliqué du début à la fin. Mais Dieu, c'est la richesse infinie, c'est la sagesse infinie, c'est l'amour infini. Alors pourquoi se détourner de Dieu ? On se détourne. Finalement, quatrième point, toujours dans le chapitre 2, ce bonheur est une libération. Une libération. Ceux qui refusent ce bonheur, en réalité, se font esclaves de leur passion. Regardez l'histoire de l'enfant prodigue. Il a voulu quitter la maison paternelle, il a voulu profiter de l'héritage. Il se retrouve finalement esclave, plus bas que les animaux. Et lorsque nous nous détournons de Dieu, c'est ce que nous faisons. Et toujours, Dieu nous attend, comme le père de l'enfant prodigue attend son fils, pour arriver de loin, couru à sa rencontre. Donc, lorsque nous marchons vers le bonheur, nous sommes délivrés de cette condition, en fait, animale, qui nous est décrite dans la parabole de l'enfant prodigue, dans laquelle nous étions tombés en nous détournant de Dieu. En nous approchant de Dieu, nous sommes libérés. Voilà la vraie libération. Chapitre 3, ce bonheur dont parle saint Benoît, c'est celui dont parle la Bible. Dans la Bible, il est continuellement question de la joie. C'est le projet de Dieu pour nous. Lorsque Dieu crée, il vit que cela était bon, que cela pouvait donc rendre heureux tout ce qu'il crée. On présente dans la Bible le bonheur à tout instant, la fécondité des patriarches, la joie du règne des David, la joie des Lévites qui chantent dans le temple, la joie des prophètes, la joie du messianisme, la joie de l'Apocalypse. Alors là, c'est un déchaînement de joie sous la forme de la musique, de symphonie angélique. Bref, la Bible, du début à la fin, cherche à nous faire comprendre que Dieu nous invite à la joie. Comme une promenade, mais à travers des douleurs surmontées, parce qu'il n'y a pas que de la joie dans la Bible aussi, mais ce sont des douleurs, des malheurs qui sont surmontés. Et puis, le sommet de la joie dans la Bible, on peut dire que c'est les béatitudes, comme un recommencement du paradis terrestre. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les doux, heureux les affamés et assoiffés de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les persécutés. Alors, chapitre 3, en quoi consiste de manière plus précise ce bonheur ? C'est le bonheur de la foi. Et tout de suite, vous allez me dire, la foi, mon père, elle est obscure. Dans la foi, je ne vois pas Dieu. C'est elle que nous verrons Dieu face à face. Dans la foi, nous connaissons Dieu, nous entrons en contact avec lui sans le voir. Dont Gérard, dans un entretien, peu avant de mourir, répondait ainsi à la question qu'on lui posait. Alors, à qui nous interrogerait sur le sens de la vie monastique, voici, me semble-t-il, ce qu'il faudrait dire en substance. On est moine parce qu'on a soif de Dieu. En plein désert de la vie, nous courons vers l'oasis, point de mire de nos regards, parce que nous savons qu'elle n'est pas un mirage. Vous avez dit mirage ? Oui. Alors, nous sommes tout de suite obligés de poser la réalité absolue à laquelle tout le reste est suspendu. La foi. La certitude de la foi. On est moine parce qu'il y a quelqu'un qui nous a appelés. Et ce quelqu'un ne peut pas nous tromper. D'autre part, lui répondre ne consistera nullement à miser sur un au-delà de bonheur qu'on appelle le ciel, quitte à se priver de beaucoup de choses sur terre. C'est vrai dans ce que dit Dangéré de certaines choses sur terre, et puis qu'on aura le ciel après. Mais vous allez voir, il y a quelque chose de faux aussi. Non, continue-t-il, Répondre à l'appel, donc à l'appel à la vocation, signifie mordre déjà sur terre au seul bonheur vrai qui est de chercher, d'aimer et d'étreindre mystérieusement celui qui nous a appelés. Là, sur terre, seul bonheur vrai. Il y a des mortions, il y a des privations, mais il y a déjà un commencement. Alors, vous connaissez peut-être cette phrase, je crois qu'on attribue la religion, c'est l'opium du peuple. Et donc, on se dit, c'est vrai, il a un peu raison quand même. Non, ça tente comme une sorte de moyen de faire poireauter, si vous me permettez l'expression, poireauter les gens avant le ciel, et puis pendant ce temps-là, on va les exploiter. On leur fait verser tout leur portefeuille à la quête, et puis on leur fait miroiter un bonheur. Bon, mon Dieu, qu'il n'est pas encore là, donc on ne risque pas. Et qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement? On peut déjà. Le communisme, on peut lui répondre déjà en argumentant un argument ad hominem qui porte eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le donnent pas leur paradis. Leur paradis, jusque-là, je n'ai jamais rencontré de paradis sur terre qui arrivait, qui soit donné par un parti. Donc, quand bien même ils auraient entièrement raison sur la ligne, en fait, ils se... Ensuite, deuxième réponse, vouloir tout de suite, c'est se prendre pour Dieu. Lorsqu'ils disent, on fait miroiter, on ne donne pas tout de suite, et évidemment, on ne donne pas tout de suite, parce que si on donnait tout de suite, ça voudrait dire qu'on est Dieu. Il n'y a que Dieu qui a tout de suite. Nous, on n'est pas Dieu, donc on ne peut pas avoir tout de suite. Si on n'a pas tout de suite, ben on l'a après. Donc il est tout à fait normal que le bonheur plénier arrive au terme de notre existence. Mais par contre, il y a déjà un bonheur partiel, déjà pendant notre existence. Et c'est ce bonheur-là dont nous allons essayer de nous entretenir pendant cette retraite. Et ce bonheur partiel, il se réalise dans la foi. On mord, comme dit Don Gérard, on mord déjà sur terre au seul vrai bonheur. Et cette morsure, elle se réalise dans la foi. Pourquoi? Parce que l'objet de la foi, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on dit, on emploie le mot objet, vous savez, parfois on a tendance à... En disant l'objet, c'est une chose matérielle, comme une table. Non, un objet, c'est tout ce qui se présente à moi, tout ce avec lequel j'entre en relation. Et donc, à ce moment-là, je peux dire que je prends pour objet. Et lorsque Dieu est l'objet de ma foi, ça veut dire que j'entre en communion avec Dieu. Je m'unis, c'est ça la communion, je m'unis avec Dieu dans la foi. Mais s'unir avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux que de s'unir avec Dieu? Si la foi, si nous avions déjà la vision... Alors, ça voudrait dire que Dieu nous aurait donné le résultat sans nous faire contribuer à ce résultat. Il aurait très bien pu le faire, mais il ne nous aurait pas pris au sérieux. Il ne nous aurait pas pris autant au sérieux, si on peut dire. Il n'aurait pas cherché à nous faire contribuer à ce bonheur par toute la noblesse de notre humanité. Nous, hommes, nous sommes capables de contribuer à ce bonheur. Et c'est juste en offrant toutes les difficultés qui se présentent à vous. Pour Dieu, ce n'est pas un mépris, c'est au contraire un ennoblissement. En nous faisant contribuer à la réalisation de ce bonheur par la vie de la foi. Chapitre 5, vouloir être heureux. Parler du bonheur, mais maintenant il ne suffit pas simplement de présenter ce qu'est ce bonheur, il faut le vouloir. Un jour,